dans toutes les choses que nous pouvons voir, autant le regard de quelqu'un que un paysage, que de l'air. Qu'est-ce qu'on fait quand on se lève le matin et qu'il fait gris? Il paraît qu'ici, la semaine dernière, il y avait un temps comparable à celui du mois de novembre. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on n'est pas content quand le temps est mauvais? Et comment est-ce qu'on voit les choses matérielles, en fait? Comment est-ce que Dieu voit ces choses? Et Dieu vit que tout cela était bon. Alors si dans les choses de la terre, notre référentiel, c'est Dieu, si dans les choses de la terre, y compris du corps, notre référentiel est Dieu, comment est-ce que nous, on peut regarder notre corps en disant « vivement que je sois débarrassé de ce corps ». Je crois qu'il y a déjà là quelque chose d'injuste. Le projet de Dieu, quant au corps, mais de manière générale aux choses qui sont à la fois invisibles et aux choses qui sont visibles, aux choses invisibles et aux choses visibles, nous est présenté dans l'Épître aux Éphésiens, et je vais juste lire Éphésiens 1, verset 10. Au verset 9, il nous est dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Alors, ce qui nous touche, ce qui ressort de ce verset, c'est que le propos de Dieu est de réunir en un toutes choses en Christ. Il est celui qui sera Seigneur, il est celui qui, pendant le règne de 1000 ans, règnera avec justice, avec bonté, avec fermeté. Il est celui qui sera connu de tous, réunir en un toutes choses en Christ. Mais on peut aussi voir avec le contexte général de l'Épître aux Éphésiens, qui nous présente les lieux célestes. Les lieux célestes, cette expression qui est 5 fois présente dans l'Épître aux Éphésiens, avec un mot grec, upuronois, qui est typique et qui ne se trouve que dans l'Épître aux Éphésiens, les lieux célestes. Eh bien, nous sommes, nous, appelés à vraiment considérer que le propos de Dieu est de réunir en un, en Christ, les choses qui sont dans les cieux, c'est-à-dire les choses invisibles, et les choses qui sont sur la terre, les choses visibles. Et que nous, nous ne sommes pas seulement un corps, nous sommes aussi un être intérieur, comme nous dit deux passages clés, Éphésiens 3:16 et 2 Corinthiens 4:16, Éphésiens 3:16 qui nous dit, qui nous appelle à être fortifiés en puissance quant à l'être ou l'homme intérieur. Le propos de Dieu est de réunir en un ces deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Et quand Dieu prend un corps, c'est qu'il veut être vu, c'est qu'il crée un monde du visible que l'œil voit, et Dieu veut être vu. C'est le sens, me semble-t-il, de cet interdit de Exode 20. Dieu avait dit à son peuple, à Israël, « Tu ne te feras pas d'image taillée. » Pourquoi ? Parce que ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le moment de voir Dieu. Ce n'était pas encore le moment que Dieu se révèle de manière visible en Jésus-Christ. Et il y a eu toute une période où le peuple d'Israël a eu à apprendre des choses, et au temps convenable, il y a eu cette visitation, ce moment où Dieu a désiré être vu. Et la parole devint chair et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique de la part du Père. Alors, quand le Seigneur Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il y a donc ces deux mondes qui sont là, il y a cette présence du Dieu créateur, du Dieu rédempteur dans le monde invisible, et puis cette présence dans le monde visible de celui en qui nous pouvons regarder Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, une application pratique, ce qui ne peut pas se voir, ce que l'œil n'a pas vu, nous dit 1 Corinthiens 2, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Mais par contre, l'apôtre Jean dit dans son épître, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Alors il y a quelque chose d'important là. Non seulement, première application pratique, ce qui relève de la matière et du corps est important, mais deuxième application pratique, c'est que Dieu désire être vu, Dieu désire être connu, et connu de manière particulière. Et on peut voir dans le mot qui est traduit par visage en hébreu, panim, quelque chose d'intéressant. Panim en hébreu veut dire manifestation de soi. Notre visage, en fait, avec toute la complexité des muscles, notre visage révèle ce que nous sommes. Alors bien sûr, il n'est pas question de grimer le visage et de s'arranger pour être quelqu'un présentable. Mais ce qu'il est question de faire, c'est que mon être intérieur, comme dit 2 Corinthiens 4:16, soit renouvelé de jour en jour, et que mon visage reflète ce que mon être intérieur est. Alors, voilà Dieu qui veut se révéler de manière particulière, et à nous de regarder le Seigneur Jésus, et notamment dans les évangiles, et de le voir en action, de le voir quand il pleure, quand il se réjouit, quand il est fatigué, etc. Et contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes renouvelés comme par le Seigneur en esprit, hein, de gloire en gloire, nous dit 2 Corinthiens. On va passer au deuxième point, Et maintenant, considérez que nous sommes, nous, faits à l'image de Dieu, et voir quelques textes dans la Genèse. Genèse 1, verset 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâle et femelle. » Et là, on va voir que tout ce qui est valable, entre guillemets, pour Dieu, est aussi valable pour nous. Dieu donne du prix à la matière, Dieu donne du prix au corps. Il était important, il fallait que le Christ offrait ces choses, mais il fallait aussi que Dieu soit manifesté en chair. Donc en fait, mon corps, comme le corps de Dieu, à son image, rentre dans un projet qui a tout son sens. Quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je suis devenu, le chemin de mon corps a tout son sens et je vais y rentrer parce que je sais qu'en Dieu, il a tout son sens. Faisons l'homme à notre image. Si on ne regarde que la révélation de l'Ancien Testament, on se dit, mais en quoi est-ce que je suis à l'image de Dieu? Et on va pouvoir dire, oui, je suis à l'image de Dieu parce que je suis capable de réfléchir, capable de projeter, capable de vouloir, capable de ressentir, etc. Mais si on regarde la révélation générale de l'Ancien et du Nouveau Testament, et qu'on voit que Dieu a été manifesté en chair, et qu'on voit que, de la même manière que en Genèse 5, au jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, mais ensuite Adam, verset 3, engendra un fils à sa ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes, nous, dans cette ressemblance de Dieu, Dieu nous a créés à son image, et nous sommes engendrés à l'image de Dieu, et nous sommes dans ce même chemin que Dieu en quelque sorte a pris en Jésus-Christ, Dieu étant manifesté en chair, et nous avons, nous, à rentrer dans ces mêmes perspectives en disant, mais ce que je suis dans mon corps, comme dit Paul, cela vaut bien la peine. Il y a, en Philippiens, il y a une plus-value, il y a quelque chose qui est important dans lequel il faut que je marche. Alors, en quoi consiste le fait d'être à l'image de Dieu? Eh bien, nous sommes, nous, humains, comme Jésus aussi est devenu humain. Et nous avons à regarder à ce modèle. Par exemple, on peut se souvenir de cette expression d'un Pierre 2,21, « Le Christ a souffert, nous laissant un modèle afin que nous suivions ses traces. » D'un Pierre 2,23. Donc il y a quelque chose que nous avons à regarder soigneusement et à suivre. L'image de Dieu, elle est aussi dans quelques précisions qui sont données ici. Il est dit, donc faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, etc. Et il est dit juste après, fructifiez, multipliez. Remplissez la terre, la sujettissez. Donc en fait, l'appel de Dieu à être son modèle, c'est en fait de remplir la terre. C'est en fait de faire que, avec nos 10 doigts, quelque chose résulte, en fait, de cet appel que Dieu nous a fait. Nous sommes capables, mais que nous puissions mettre en œuvre cette créativité, cette faculté d'arranger, d'ordonner. Certaines personnes disent qu'entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, il y a eu la révolte des anges, et que la conséquence de cette révolte des anges a été que la terre était désolation et vide. Ce mot « désolation et vide » peut aussi être traduit par « vide et inorganisé ». Il me semble que Dieu nous appelle justement à remplir la terre et à l'organiser. Alors bien sûr, en faisant des enfants, c'est le sens général de ce qu'on entend dans « fructifier »,« multiplier ». Mais c'est aussi de faire fructifier tout ce que je suis capable de produire dans mon corps, de produire en moi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire de mes 10 doigts ? Énormément de choses. Je suis capable de concevoir quelque chose, je suis capable de le produire, je suis capable d'en parler, je suis capable de ressentir des choses. Et donc, fructifier, multiplier, assujettisser, contrôler, en fait, tout ce qui relève de mon corps, ce qui résulte de mon corps, en l'alimentation, l'habillement, tant de choses, être à l'image de Dieu, vivre dans mon corps et rentrer dans un projet dans lequel Dieu m'a appelé. Alors, en Genèse 2, au verset 7, on voit qu'il y a cette expression mystérieuse, « Dieu forma l'homme poussière du sol, et il souffla dans ses narines une respiration de vie, et il devint une âme vivante. » Et puis au chapitre 6, on voit que l'Éternel dit, « Mais mon esprit ne contestera pas à jamais avec l'homme, lui n'est que chair. » Et on voit que dans ce corps, dans cette corporalité, il y a des tensions, et je ne vais pas creuser ce sujet qui est un petit peu difficile, mais simplement dire de manière pratique que si je vis dans mon corps la volonté de Dieu, si je marche selon l'Esprit, si je suis ouvert, si j'ouvre les volets de ma fenêtre, la porte pour que la lumière rentre, alors je comprendrai la volonté de Dieu et dans mon corps je vais pouvoir la mettre en œuvre. Si au contraire je vis dans mon circuit intérieur qu'on pourrait appeler mon âme, l'homme devint une âme vivante, mais quelque chose de vivant en lui-même qui peut lui donner en quelque sorte le risque de vivre tout seul sans Dieu, alors c'est là où nous avons un comportement charnel, l'homme n'est que chair. Et donc, être à l'image de Dieu, c'est comprendre que nous sommes appelés à marcher à la suite du Seigneur, Dieu qui s'est manifesté en chair, et à accomplir dans le corps un ensemble de choses, mais c'est aussi à rester dans cette relation avec le Seigneur pour que tout ce qui relève de mon corps puisse trouver son accomplissement. Tout ce qui relève de mon corps, c'est-à-dire en fait la bonne santé, la bonne mise en œuvre de ce que je dois faire, la justesse de ce que je dois penser en moi-même, et toute la créativité, la sexualité et d'autres choses encore, tout cela Dieu m'appelle à l'ordonner, et c'est à moi de toujours de cultiver cette relation avec le Seigneur, des psaumes 36 verset 9, car par devers toi est la lumière de la vie, et à ta lumière je verrai la lumière. Si régulièrement je me mets à la lumière, alors je saurai ce que je devrais faire dans mon corps. On a parlé de vieillissement, on a parlé de maladie, on a parlé de beauté qui se dégrade. Dans le plan de Dieu, il y a ce, pour nous, ce qui s'est passé à la chute. Il y a la mort qui est entrée, qui est la conséquence de la désobéissance. Romains 5, 12 nous parle de ce péché d'Adam. Et après le péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde et elle est passée à tous les hommes en ce que tous ont péché. Donc il y a dans ces choses dans lesquelles Dieu est souverain, il y a la mort qui est passée à tous les hommes, il y a la maladie, il y a tout un ensemble de choses qui font du mal au corps, et on les verra tout à l'heure, donc après la pause, on verra comment est-ce que, de manière très concrète, je vais pouvoir moi rentrer, avec l'écoute du Seigneur, dans le fait de préserver mon corps de choses qui pourraient me faire mal. Proverbe 8, 36 dit par exemple, « Celui qui pêche contre moi, c'est la sagesse qui parle, fait du tort à son âme. » Et on verra que tout ce tort-là a des répercussions sur mon corps. On le verra tout à l'heure. Le vieillissement est donc quelque chose dans lequel je n'ai pas de responsabilité. La mort est entrée dans le monde avec le péché. Mais certainement, chaque fois que je pêche, il se passe des choses qui me font du mal. Et je note ce verset, on va le creuser tout à l'heure, à propos de la scène, dans 1 Corinthiens 11, il est dit que celui qui prend la coupe indignement boit un jugement contre lui-même. Et il est dit, c'est pour cela que plusieurs d'entre vous sont malades et même dorment, c'est-à-dire sont morts. Donc on voit que ce vieillissement peut être un vieillissement normal. Moïse a 120 ans, il nous a dit que sa vigueur ne s'en était pas allée, que son œil ne s'était pas affaibli. Il y avait un vieillissement, mais dans un sens, il a eu toute la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de sa route. Et à nous de ne pas ajouter